Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, ce 11 novembre, et oui, pas de pitié pour les braves, pas de repos pour les braves, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aborde cette petite épinglette qu'un de nos fans nous avait envoyé. Il nous avait envoyé des dorés, des argentés, des rectangulaires, des petites rondes. Et voilà, je les trouve très jolies, donc je suis contente de la porter aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, qui est assez important et qui va être en rapport avec la leçon du jour, parce que je me suis imposé le week-end dernier de lire un ouvrage dont je vais vous parler, qui m'avait été offert par ma fille, c'est que vous avez sûrement entendu cette information hier, le 10 novembre, qu'à compter du 10 novembre, donc les femmes travaillaient désormais pour rien. Parce qu'il existerait une injustice salariale qui ferait que les femmes seraient moins payées en France que les hommes.
À travail égal.
À travail égal, bien sûr. Alors, de la même façon, ça tombe assez bien sur le sujet du jour, mais c'est un énorme bouteillon, c'est complètement faux. En fait, il y a en mesure de salarial ce qu'on appelle le raw gap, qui est l'écart salarial qui compare tous les salaires sans ajustement, et l'écart salarial ajusté qui est le controlled gap qui compare des profils identiques. Quand on compare des profils identiques à travail égal dans les mêmes entreprises, hommes et femmes sont exactement payés pareil. Ce qui arrive en revanche, c'est que en général, dans une masse salariale globale, les femmes vont accepter du temps partiel, vont accepter de faire des 4/5e et ce genre de choses, ou des emplois moins qualifiés pour X, Y, Z raisons qui dépendent de leur volonté. Et donc, la somme des hommes a, en général, en montant des salaires plus importants que la somme des femmes. Mais ça ne prend pas en compte, donc dans ces deux additions, le fait que les femmes en amont aient fait le choix de prendre un travail qui est
et
moins
ça ne
rémunéré.
Prend pas en compte aussi un autre fait, c'est que les femmes prennent leur retraite plus tôt. Donc si on ajuste le salaire des femmes pour le travail, pour le fait qu'elles prennent leur retraite plus tôt, mais par exemple, tu me dis que le 10 novembre, ça, c'est... Mais comme elle, en général, elle travaille, je crois, elle peut prendre la retraite 3 ou 4 ans plus tôt. Mais si tu ajustes du 10 novembre au 31 décembre pour les 30 ans de travail et le fait qu'elle ait travaillé que 27 ans, j'imagine, elles sont payées pareil. Puisqu'elles sont payées, elles peuvent s'arrêter de travailler plus tôt. Donc, tout ça, ça fait partie de ces espèces de mythes sociaux, si vous voulez, qui vous font penser, qui visent à vous faire penser que la société est profondément injuste et qu'il faut que quelqu'un s'occupe de la rendre juste.
Voilà. Alors, comme vous le savez, nous avons à cœur de remettre un petit peu les petits plats dans les grands et de faire en sorte les pendules à l'heure et distribuer des paquets de baffes quand il est temps de le faire. Et là, figurez-vous que je suis tombée sur ce livre parce que ma fille, qui est à Oxford, me l'a offert. Pensant sur mon bien faire et aussi parce que, et ben ma foi, dans les grandes universités, ils sont absolument noyés, nos jeunes, de ce genre d'informations. Donc ce livre s'appelle « Le coût du sexisme »,« The Cost of Sexism ». Il est évidemment encensé par le Guardian. Le Guardian, c'est, je vais pas dire que c'est l'humanité, mais c'est...
Non, c'est plutôt le Monde. Avec, oui, c'est le Monde, avec une...
Il faut, une petite tranche de l'humanité.
Mais pas, le Guardian, c'est le journal des gens de gauche respectables. Donc oui, c'est le Monde, et peut-être avec une touche de Libération. Allez, c'est, voilà. Mais, enfin, c'est... Quand vous êtes de gauche en Angleterre, vous lisez le Guardian.
Voilà. Et donc, ça s'appelle « The Cost of Sexism, How the Economy is Built for Men and Why We Must Reshape It ». Pourquoi l'économie est construite pour les hommes et pourquoi nous devons, donc nous les femmes,
la reconstruire,
par une dame qui s'appelle Linda Scott. Alors, Linda Scott, c'est une économiste britannique renommée. Elle est professeure à l'université d'Oxford, où elle a occupé la chaire DP World pour l'entrepreneuriat et l'innovation. Elle a travaillé avec la Belinda Gates Foundation. Et elle est pionnière pour les mouvements économiques des femmes. Elle a été citée par le New York Times, le Guardian, la BBC. Donc, ce livre, si vous voulez, c'est un peu la Bible économique des féministes de gauche. Donc, c'était important pour moi d'en parler aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'ai une nature qui aime se faire du mal. Non, je rigole. Non, mais au-delà de ça, c'était pour nous que nous fassions le travail de reprendre tous ces mythes fondateurs de la gauche un par un, de les exploiter, de les mettre à plat, afin que vous, de votre côté, vous puissiez aussi avoir les biscuits pour pouvoir répondre à toutes ces fadaises, parce que Dieu sait que fadaises il y a. Donc, on va y aller. Sachez que j'ai passé un très mauvais week-end.
Tellement tu t'es énervé à lire ce livre.
C'est un lavement. Voilà. Mais donc, on va essayer. Je vais essayer de faire ça avec Charles, avec le plus de...
Vous avez avec Charles un individu parfaitement neutre sur le sujet, hein, comme vous vous en doutez, quoi.
Complètement neutre. Alors, déjà, le livre s'ouvre sur Accra, la capitale du Ghana, où des femmes et des très jeunes filles errent enceintes dans les rues. Le chauffeur se désespère car il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas suffisamment de travail pour toutes ces femmes enceintes au Ghana. Et son travail à elle, au travers de cette fondation, c'était de faire en sorte que les filles restent à l'école pour y recevoir une éducation. Donc s'ensuit des paragraphes assez incroyables sur le fait que si les nations arrivaient à briser le cycle de l'enfer, alors les pays africains connaîtraient une prospérité comme jamais auparavant, qui sonne bien, évidemment, oui, and world peace, si tu veux, oui, on voudrait tous la paix dans le monde, et je, très honnêtement, je suis tout à fait pour, en tant qu'horrible capitaliste, pour que les jeunes filles au Ghana aillent à l'école aussi longtemps qu'elles le puissent.
Je signale qu'il n'y a pas qu'au Ghana, parce que par exemple, nous qu'on était à Hong Kong, on a activement participé avec mon frère et son épouse à des œuvres qui établissent des écoles de quelque part dans les montagnes de l'Himalaya, etc. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on on bâtissait une école et on mettait des livres dedans. Et puis quelque part, il y avait toujours quelqu'un qui savait lire et écrire, qui allait ensuite faire la classe et... Et c'était beaucoup plus intelligent de faire ça. Et c'est une école qui a marché très bien. C'est une de ces écoles qui porte le nom de ton grand-père, d'ailleurs, Ernest, là-bas, au fin fond de l'Himalaya. C'est rigolo. Mais c'est plus utile de faire ça que d'écrire des livres, si j'ose dire. Tu vois, c'est-à-dire que d'écrire des livres, tu te fais, je le sais puisque j'en ai écrit, tu te fais plaisir à bon compte. Mais ça a assez peu d'action sur la réalité. Donc, cette dame, je suis sûr qu'elle est très très bien, qu'elle est à Oxford.
Non, alors, elle est allée au Ghana. Et alors, l'opération qu'elles avaient, c'était aussi pour apporter, c'est toujours pareil, des protections hygiéniques aux
petites filles. Oui, les protections hygiéniques et d'empêcher les enfants de naître. Oui, ça, c'est très...
C'est très Belinda Gates aussi.
Belinda Gates aussi. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a, vous savez que la grande thèse de Bill Gates, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde sur la Terre et qu'on ramène la population à peu près à 500 millions. Je vous signale qu'on est 8 milliards aujourd'hui.
L'idée aussi est quand même d'éloigner les femmes de toute notion de famille et d'avoir des enfants. Mais bon, selon ses calculs à elle, qui sont basés sur, d'après elle, les données de la Banque mondiale et d'autres sources, l'exclusion des femmes coûterait à l'humanité des trillions de dollars par an. Et c'est horrible parce que les femmes donc sont confinées à des
les femmes, mais des femmes, elle parle des femmes au Ghana.
Oui.
Oui, d'accord, mais en fait très bien, il y a des femmes au Ghana qui ont des problèmes, mais à partir de, qu'est-ce qui lui donne le droit de passer des femmes au Ghana aux autres femmes dans le monde? J'ai pas l'impression que ce soit le sujet en France, par exemple.
Alors, absolument rien, et c'est en ça qu'il y a des non sequitur absolument incroyables. Vous savez, des non sequitur, c'est entre des syllogismes et des non sequitur.
C'est ce que Chirac était très bon pour ça. Il disait « il fait beau, donc je vais faire un référendum ». Vous voyez, voilà. Pas pourquoi il y avait le « donc » entre les deux. Donc il n'y avait aucun rapport entre la première proposition et la deuxième.
Donc là, on est tous bien d'accord que les femmes au Ghana ont des problèmes.
Oui, on pourrait donc, il faut s'attaquer au problème du Ghana. Quoi,
voilà.
Oui.
Mais je ne vois pas très bien quel est le lien avec la population française ou la population
britannique.
Roumaine, si on va par là.
Je suis laissé dire que les femmes pakistanaises et non pakistanaises en Angleterre avait des problèmes avec les Pakistanais, mais c'est peut-être un problème où elle aurait pu parler aussi, quoi.
Et ce qu'il y a d'étrange aussi, parce qu'on parle de problèmes de structure de la société au Ghana, et on en parle aussi au Pakistan, et on en parle dans différents pays, c'est que jamais, en revanche, on ne parle de la structure sociale ou de la structure religieuse de ces pays,
oui.
qui quand même, rappelons-le, structurellement, la plupart du temps, ne voit pas aussi la femme comme un égal, comme une égale. Donc à partir du moment où vous avez un système juridique qui en lui-même ne donne pas aux femmes, et on le voit malheureusement dans nombre de pays musulmans où des femmes ne peuvent pas hériter, où des femmes n'ont pas juridiquement le même droit que les hommes, même si elles ont un droit de vote, elles ont quand même la plupart du temps des droits inférieurs. Comment voulez-vous, dans ces cas-là, avoir un accès à l'éducation quand vous n'êtes pas reconnu vous-même comme une entité égale ? Donc le problème, peut-être, vient aussi de là à la source. Est-ce que la situation économique ne naît pas de la conception juridique qu'on a des femmes sur place ?
Mais ça me paraît tout à fait évident. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'elle a fait une étude sur la situation des femmes, par exemple, dans les populations musulmanes par rapport à la situation des femmes dans les populations non musulmanes?
Tu penses bien que non.
Ah bon?
Voilà. Alors. Mais en revanche, d'après elle, cela freine la croissance du PIB, car si les femmes participaient pleinement, le PIB mondial pourrait monter de 15 à 25%.
C'est ce qu'on appelait autrefois, quand j'étais jeune, si vous voulez, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Quoi. Ouais. C'est pas une remarque bien intéressante.
If my grandmother had wheels, she would have been a bike. Peut-être que certains d'entre vous ont cette référence qui est
Donc c'est exactement le genre de truc, si vous voulez. Si on éradiquait la misère dans le monde serait beaucoup plus heureux. Oui, mais maintenant, dans toutes les sociétés depuis le début des siècles, il y a eu toujours des misérables, y compris dans les nôtres.
Et alors ensuite, je ne sais pas pourquoi elle fait une focalisation sur l'accès à l'entrepreneuriat. Bon. Et elle dit, le vrai problème, c'est que les femmes en Inde ou en Afrique subsaharienne n'ont pas accès au crédit et donc ne peuvent pas devenir des entrepreneurs, ce qui perpétue la pauvreté.
Mais elles n'ont pas accès souvent même au compte en banque. Ce que je veux dire, c'est que les femmes ne sont pas juridiquement, dans ces pays-là, amenées. D'ailleurs, en France, jusqu'aux années 45-50, je crois que les femmes n'avaient pas droit à un compte en banque. Donc c'était le statut juridique qui détermine l'accès au crédit. Donc si les femmes n'ont pas accès...
Je crois qu'on a été sous vos numéros de sécurité sociale. On n'avait pas de numéro de sécurité sociale propre jusque dans les années 60.
Ça me paraît
non,
un
mais
peu tard.
Quand tu travaillais... Quand tu travaillais, parce que je sais que Frédéric, la maman de Nico, de mon beau-frère, n'avait pas de numéro de sécu propre quand elle a commencé
à
travailler.
Il y avait certaines professions en France, par exemple si tu étais femme d'officier, tu n'avais pas le droit de travailler. Mm. C'était tout quoi. Donc ma chère mère, elle aurait voulu travailler qu'elle ne pouvait pas, puisqu'elle était femme d'officier.
Alors qu'il lui restait plein de temps libre avec 5 enfants.
Elle
lisait des magazines de luxe.
Elle lisait des magazines tout le temps. Non, mais cette espèce de truc de dire, ce qu'elle dit, si la société était comme la société autour d'Oxford, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Oui, ça me paraît une idée intéressante, mais c'est à la limite du colonialisme. C'est-à-dire que t'envoies des troupes, tu fais une société comme Oxford, et puis tu te fais virer quelques années après parce qu'ils n'en veulent pas. Donc il y a aussi ce truc, si tu veux, cette espèce d'idée que nos sociétés sont terriblement supérieures aux leurs.
Il y a aussi une autre idée qui sous-jacente qui m'a beaucoup irritée et qui est très de gauche, cela dit, c'est que quelque part la croissance naîtrait simplement du travail. Ouais. Encore une fois, la création de richesse, la création de valeur ne naît pas simplement du travail. Elle arrive du travail, elle arrive de la rencontre avec le capital. Or, là, quand elle dit de façon assez aléatoire, comme ça, oui, ces pauvres femmes n'ont pas accès au crédit. Mais évidemment, parce que ce sont des pays, encore une fois, peut-être aussi à cause de la religion musulmane, qui n'ont pas cette notion d'approfondissement du capital. Et quand vous ne permettez pas le prêt usuraire, quand vous n'avez pas de mise en place de structures bancaires, quand vous n'avez pas les structures capitalistiques sous-jacentes, vous n'aurez pas d'approfondissement du capital et donc vous n'aurez pas d'accès au crédit, homme comme femme. Et donc vous allez avoir des sociétés qui vont rester relativement agraires parce que l'approfondissement du capital, c'est ce qui vous permet d'avoir ensuite de créer des usines, de créer sur un temps long.
et d'avoir des gains de productivité. Et la seule chose qui fait des gains de productivité, qui fait des gains de pouvoir d'achat, c'est si la valeur de votre travail monte avec le temps. Donc, comme tu l'as fort bien dit, il y a des religions qui interdisent littéralement le prêt à intérêt. À partir du moment où
toute la religion musulmane interdit le prêt à usuraire. Et l'Église
pas le prêt usuraire, le prêt, parce que usuraire c'est une notion péjorative. Oui. Le prêt à intérêt, c'est-à-dire que on ne peut pas prendre en compte la valeur du temps.
Alors je t'arrête. Ils considèrent que tout prêt
est usuraire.
Donc de toute façon, ça va être pour eux le prêt usuraire. Tout prêt à intérêt est usuraire pour
tout
eux.
Tout à fait. Et ce qui est une notion, il y a des prêts usuraires.
Et l'Église pendant longtemps a dit l'usure. Quelle qu'elle soit.
Mais c'était l'usure. Donc l'usure, c'est laisser des gens comme les Lombards ou les Juifs ou certaines populations.
Oui, mais alors, tu comprends, il y a une
prêts.
Subjectivité. De toute façon, un prêt, à partir du moment où il est rémunéré, on peut le qualifier d'usuraire. Où est-ce que tu mets ta limite?
En principe, c'est le marché qui détermine. Et les jésuites de Salamanque, etc., ont commencé à parler du prêt-intérêt avec des beaucoup moins négatifs, mais cette notion que l'argent ne doit pas travailler, tu peux pas gagner de l'argent avec de l'argent, est une notion qui empêche complètement tout développement. Parce que ça t'interdit de faire rentrer le temps dans le calcul économique.
Et on a fait une émission sur ça que vous retrouverez, qui s'appelle Le prix du temps. À partir de ce livre d'un anglais formidable qui s'appelle The Price of Time.
The Price of Time, oui.
Et qui vous explique ça très bien sans vouloir me vanter. Alors, dans le chapitre 2, elle nous explique, donc elle reprend toutes les données de Big Data et fait un lien entre la croissance du PIB et l'éducation secondaire chez les femmes.
Et ça, c'est quelque chose qui est vrai. Plus les femmes sont éduquées, plus il y a de croissance, etc. Et ça, c'est vrai. Mais encore une fois, si vous prenez les statistiques des Nations Unies, qu'elle n'a pas dû utiliser, c'est dans les pays musulmans que les femmes sont moins éduquées. Donc, on a un problème, là encore, sociologique.
Alors, ensuite, c'est assez intéressant. Alors là, elle prend des données qui viennent de pays occidentaux et elle fait une étude à partir de UCLA où elle dit « Ah, c'est très dommage, il n'y a pas assez de femmes qui prennent le chemin de la finance. » Alors, je ne suis pas très sûre de ces données parce que moi, j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal, mais bon, soit. Outre que la plupart du temps, quand on se met en amont de ce genre de raisonnement, moi, j'ai une fille qui est dans la finance, en fait, les femmes font des choix pour essayer d'y trouver un équilibre de vie. Donc, pourquoi ne vont-elles pas dans certains métiers? Parce qu'elles savent très bien que c'est des métiers impossibles et qu'elles ne veulent pas. Moi, je sais que ma fille se dirige plutôt vers quelque chose qui serait plus family office, simplement parce qu'elle n'a pas du tout envie de se retrouver comme de la chair à canon chez Morgan Stanley.
Et la finance, encore une fois, c'est quelque chose que j'essaye d'expliquer toujours, mais les gens ont du mal à comprendre. C'est le cœur nucléaire du système capitaliste. Et moi, j'y ai été toute ma vie, et je peux vous assurer que j'ai vu tout un nombre de gars qui ont été irradiés. C'est-à-dire qui en crèvent. C'est un monde d'une brutalité. Il y a assez peu de femmes qui sont conductrices de Formule 1. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu te casses la gueule, et puis c'est... Donc, il y en a, mais il y a assez peu de femmes qui sont pilotes de chasseurs, de militaires. Il y a un nombre de métiers qui ont une
charge émotionnelle.
Une charge émotionnelle et où tu peux y laisser ta vie. Mmh.
Et tu peux tout à fait en amont te dire, moi, alors quand j'étais avocat, j'ai travaillé sur des deals de fusion-acquisition, ainsi de suite, c'était des métiers où tu n'avais pas d'horaire, tu n'avais pas de week-end, tu n'avais pas évidemment donc de famille. C'est très vite un choix que tu as appelé à mettre en perspective en te disant « Est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie d'avoir ?»
Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un certain nombre d'hommes qui acceptent ce genre de vie. Et lorsqu'on regarde, quand on regarde les hommes et les femmes, c'est que le niveau d'agressivité, tout ça, est le même dans la moyenne, grosso modo. Tu vois, si tu fais une courbe de Gauss, là, mais tu te rends compte
c'est
que...
C'est la courbe.
Ah, c'est la courbe, mon chapeau de gendarme, là, la courbe comme ça, qui vous donne... Mais la quasi-totalité la courbe de Gauss des hommes est beaucoup plus forte dans les métiers à risque très élevé. C'est-à-dire que les hommes sont beaucoup plus agressifs.
C'est la testostérone.
C'est la testostérone. Et aussi, et donc les hommes sont beaucoup plus agressifs. Ce qui fait que, par exemple, il y a à peu près 9 prisonniers hommes pour un prisonnier femme. Tu vois, c'est-à-dire que les hommes sont plus criminels. Les hommes sont plus violents. Les hommes sont. Mais c'est. Tout à fait. Il y a une partie des hommes qui est extraordinairement violente. Et je peux vous assurer que les métiers de la finance sont d'une violence
Émotionnel,
etc. Moi, je les ai pratiqués. Et je me suis réveillé, je ne sais pas combien de fois dans ma vie, à
4h
du
glacé,
matin.
Glacé.
Glacé de trouille par les décisions que
moi, je me souviens
prises.
Quand j'étais petite, parce que tu t'es amené à beaucoup voyager. Donc, quand papa rentrait de voyage, il venait nous dire bonjour. Et à chaque fois, j'avais un lit à étage, vous savez, un lit en hauteur. Et alors, il me disait, surtout, tu choisis pas les métiers de la finance. Tu choisis pas les métiers de la finance.
Non,
c'est un métier abominable.
C'est un métier épouvantable. Alors, en même temps, c'est un métier passionnant intellectuellement. C'est un métier où vous apprenez beaucoup de choses. Je le dis sans aucune méchanceté, ni sans aucune, c'est pas un métier de femme. C'est un métier du gars qui... T'es un boxeur professionnel, quoi. Tu prends des coups dans la tête.
Je vais tempérer. Encore une fois, ce dont parle Charles, c'est certains métiers de la finance. Après, si vous êtes analyste, par exemple,
faire ce que
fait Cédric, tu peux le faire de manière pérenne.
Tu peux le faire pérenne, mais en même temps, si t'es mauvais, au bout d'un certain temps...
Il faut qu'il soit bon. Mais tu peux
mais
quand
la
même...
La sanction arrive rapidement. Mm-hmm. Si t'es professeur d'université, il n'y a jamais de sanction, tu vois ce que je veux dire. Et il y a aussi un autre phénomène.
Mais travailler sur les marchés, gérer des portefeuilles, être conseil...
Avoir les radios tout le temps.
Oui.
Avoir les radios 9 fois sur 10. Donc c'est très fatigant. Mais il y a aussi autre chose qui se passe, c'est que le plan de vie des femmes n'est pas le plan de vie d'un homme. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, il y a Juppé qui avait mis un numerus clausus sur les médecins parce qu'il y allait avoir trop de médecins. C'était il y a 20 ans ou 30 ans. Bon, c'était une imbécilité. Et aujourd'hui, il y a une pénurie de médecins totale.
Pourquoi on va chercher des médecins roumains ou des médecins algériens?
On va chercher. Pourquoi? Parce que les femmes ont passé les concours. Mmh. Donc on s'est dit, elles seront médecins pendant les 40 ans qui viennent. Mais en fait, au bout de 20 ans, pour des raisons familiales ou tout, elles décident d'aller vers
soit elles deviennent radiologues. Mais
elles
on a besoin.
Mais radiologues, mais encore ça va. Mais elles peuvent aussi aller vers la médecine sociale, la médecine, la médecine d'entreprise, etc., où elles travaillent de 9 à 5. Et donc, automatiquement, on se retrouve avec une pénurie de médecins qui sont dans la campagne, étaient disponibles corps et âme, taillables à merci et corvéables à merci. Il n'y en a plus. Donc, on a fait un numerus clausus, mais aurait-on fait un numerus clausus en disant on va mettre que 25% de femmes parce qu'elles ne seront plus là dans 20 ans, que tout le monde aurait possédé des cris, et à juste titre, parce qu'il y a des tas de femmes qui peuvent rester aussi et être des vrais médecins, les professeurs, n'importe quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'il y a un nombre infini de spermatozoïdes, il y a un nombre fini d'ovules. Donc, quand vous regardez, par exemple, j'ai appris ça récemment, c'est l'homme de Néandertal, qui était un cousin là. Oui, c'est le Néandertal, c'est le cousin là. Eh bien, on a trouvé des tombes de Néandertaliens, et les femmes avaient les mêmes blessures que les hommes. Et on a trouvé des tombes de la même époque de Homo sapiens là. Les femmes n'étaient pas blessées. C'est-à-dire que la différence entre les Néandertaliens et nous, c'est que les femmes ne se battaient pas. L'homme, dans le sapiens, c'est le guerrier, celui qui va prendre les coups. Et puis, s'il se fait tuer, c'est pas grave, parce qu'il y aura un autre qui arrive avec plein de spermatozoïdes à nouveau. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que derrière ce que cette dame nous dit, il y a l'idée que les hommes et les femmes, c'est pareil. Or, c'est pas pareil. C'est un... Et elle essaye d'expliquer que non, il y a pas de femmes de Formule 1, il y a très peu de femmes de... Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est... Ils vont, comme toujours, ces gens de gauche, vers un monde qui serait idéal, mais à la place de partir du monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc le but, c'est pas que les femmes deviennent des hommes ou soient comme les hommes. Le but, c'est que les femmes trouvent des solutions pour qu'elles puissent être heureuses et avoir des enfants et faire ce qui leur plaît en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est... Le deuxième but, c'est un but parfaitement raisonnable, mais ça intéresse pas les gens de gauche.
Alors on arrive après à une... Toujours dans ce chapitre.
Elle a des enfants, cette dame?
Je ne sais pas, je n'ai pas regardé du coup. Pour elle, un autre problème donc, dont je te parlais avant, c'est que les femmes ne prennent pas le chemin de la finance. Et elle l'explique en disant que structurellement, ce sont des vieux mâles blancs, comme toi, horribles, qui font les recrutements et qui sont eux-mêmes influencés par leur temps. Attends, je t'ai dit qu'il ne fallait pas que tu t'énerves, hein, parce que moi, j'ai pris sur moi tout le week-end. Qui ont eux-mêmes été influencés, bon un coup, par Milton Friedman. Alors là, horreur, malheur.
Ah bah oui, ça c'est vrai. Ça.
Alors, horreur, malheur, parce que Milton Friedman aurait dit, alors, horreur, malheur, que l'État n'avait pas à s'impliquer dans l'économie. Or, c'est très mal. C'est très mal. L'État doit s'impliquer dans l'économie pour justement arriver à pallier toutes ces inégalités et faire en sorte que l'entrepreneur prenne ses responsabilités, qui ne sont pas simplement d'apporter du profit à ses actionnaires, monsieur. Il ferait bon voir. Donc là, on touche quand
donc,
même aussi...
Donc, on touche à une dame... D'ailleurs, l'égalité entre les hommes et les femmes régnait de façon parfaite en URSS ou en Chine aujourd'hui. Quoi. Quand tu vois le plénum du comité central... Avec Brejnev et tout, tu cherchais désespérément une femme. Et puis aujourd'hui, si tu veux, entamer une ou deux pour faire bonne figure. Mais donc, l'idée que l'État amènerait à une solution où les femmes seraient à égalité, ça fait plutôt rigoler. Parce que les sociétés socialistes ont été machistes à un point qui dépassait l'entendement. Quoi.
Et donc, on retrouve aussi l'idée que ces sociétés machistes ont été poussées via les mathématiques, donc les sciences dures, parce que les femmes auraient montré moins de capacités. Et donc, le biais machiste masculin, en poussant les maths, a fait en sorte de faire une non-sélection des femmes à la source.
Oui, ça, c'est l'idée. C'est une idée qui traîne partout. Mais aujourd'hui, du coup, si tu veux, 65%... Par exemple, dans les universités, il y a 65% de femmes... Et ce qui m'amène à deux remarques. La première des remarques, c'est qu'elles sont toutes dans les sciences molles. La sociologie et les trucs qui ne servent pas à grand-chose. Tu sais, pour aller travailler chez McDonald's, quoi. Et la deuxième, c'est que curieusement, quand une profession a plus de 65% de femmes ou plus, elle n'intéresse plus personne, y compris les femmes. Donc, on est...
Bah, surtout... On remarque, et on le voit avec l'enseignement, quand une profession arrive à plus de 60% de femmes, les salaires ont décru tragiquement. On le voit dans l'éducation aussi. Le prestige de la dite profession aussi, c'est horrible, mais moi je dis juste qu'on voit. Regardez l'éducation nationale aujourd'hui, ça n'est plus prestigieux. Dans le temps, là je regardais un extrait de...
Moi j'avais des profs de maths quand j'étais au lycée d'Auch qui avaient fait normal sup maths. Bah, je t'assure que c'était des cadors. C'était pas Auch, c'était pas Stanislas.
Non, hein. Non.
C'était donc.
Ça parle bien dans le bousin.
Il y a vraiment quelque chose de très curieux là-dedans. C'est que, par exemple, les femmes aussi, qu'on le veuille ou non, elles sont à peu près capables de se débrouiller toutes seules, faire des enfants, les élever à partir de 16 ans. Un garçon à 16 ans, c'est quand même un crétin pas possible, quoi.
Je confirme.
Et c'est à partir de 25 ans. Donc, l'esprit de l'homme met beaucoup plus de temps à se stabiliser. Hein. C'est pas du tout la même chose. Donc, tout ça, c'est des vieilles rengaines qui traînent depuis 50 ans et qui, dont on a prouvé qu'elles ne marchaient pas. Mais c'est ça que je trouve toujours fascinant avec la gauche. C'est qu'ils nous amènent toujours des solutions qui ne marchent pas. Mais ils disent c'est parce qu'on n'a pas assez, on n'a pas assez essayé. C'est, vous savez, ça me rappelle toujours.
On n'a pas assez éduqué. Rappelons que l'homme de gauche, malgré tout, l'homme avec un grand H, a toujours dans cette idée qu'on va former un homme nouveau. On va créer de nos mains une structure presque Frankenstein, puisque on va penser l'homme et on va donc résoudre l'homme et on va l'amener à être ce qu'il devrait être. Et on voit ça. Et on voit ça dans le chapitre 4, qui est assez merveilleux, qui s'appelle « Mauvaise excuse, mauvais traitement ». L'excuse, donc, serait que le mâle serait dominant. Mais elle dit, mais pas du tout. Si on regarde dans la nature, on a choisi d'aller vers le modèle du chimpanzé. Donc le chimpanzé...
On a 97% de DNA commune avec le chimpanzé, voilà. Donc alors, on n'est pas très loin. Hein.
Alors qu'on devrait avoir un modèle plus proche du bonobo. Le bonobo, comme tu sais, résout tous les conflits par la sexualité, puisqu'il n'y a pas de confrontation.
Mais tu sais que c'est des bêtises, parce que maintenant on sait que le bonobo, ils se mettent sur la gueule comme des fous aussi, et qu'ils font la guerre. Oui, ça c'était des... Il y a quelques personnes qui ont découvert les bonobos qui s'enfilaient en rond toute la journée, qui étaient très 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 contents parce que c'était...
Alors en tout cas, chez
les bonobos, c'est une forme de chimpanzé. Hein.
C'est une forme de chimpanzé. En tout cas, les bonobos ont une structure matriarcale, apparemment. Ce sont les femelles bonobos qui régissent un peu comme les baleines.
Les
baleines aussi, c'est les vieilles baleines. C'est-à-dire, un jour, il y a une baleine ménopausée qui arrive et qui dit « Maintenant, c'est moi le chef ». Et tout le monde dit « Ok, elle est très méchante
». J'ai vu chez les éléphants et chez les sangliers, c'est les grands-mères qui font régner l'ordre et la terreur, hein, et qui tapent sur les petits mâles qui font les imbéciles. Alors donc, je suppose que dans les sociétés
bonobos,
de baleines ou d'éléphants ou de sangliers, les jeunes mâles prennent des branlées pas possibles. Donc, la solution serait peut-être qu'on mette des branlées pas possibles à nos jeunes mâles qui sont très couillons en ce moment.
Et alors, elle dit, bon, tout ça, ça découle de niveau de testostérone, ce dont je parlais tout à l'heure.
Empêcher les hommes d'avoir de la testostérone?
Elle appelle ça le SDO, Social Dominance Orientation. Donc, on a créé des sociétés qui ont été dominées par la testostérone.
Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire?
C'est très mal.
Non, mais c'est très mal, j'entends bien, mais qu'est-ce qu'on doit faire puisque
non, l'homme mais est... c'est la grande idée, si tu veux. Donc, on retrouve l'idée qui a fait monter en réponse toute une mouvance masculiniste. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait monter des Andrew Tate en face de ça.
Andrew Tate, c'est un excité en Angleterre qui a été un champion du monde de boxe, de contact et tout.
De MMA,
et qui a gagné de l'argent comme lui et qui dit. Dans le fond, qui est musulman d'ailleurs, et qui dit les femmes, elles nous cassent un peu les pieds, donc il faut qu'elles obéissent.
À côté de ça, il est quand même question qu'il ait monté des cercles de proxénétisme en Roumanie, je crois, où il vit maintenant. Il a passé un petit peu de temps en prison, là, justement, pour les 10 cercles.
Oui, mais ça, on n'a jamais rien prouvé. Hein. C'était parce qu'il a été très... Il a été très attaqué.
Moi, j'ai
suivi le gars pendant un petit moment, je veux savoir qui c'était. Et il a été attaqué de façon extraordinaire par les tribunaux et tout, et ils ont jamais rien trouvé. Donc ça a fait partie de cette attaque par les tribunaux de gens qui sont pas d'accord avec cette dame, quoi.
Voilà. Bon, en tout cas, ça, quoi qu'il en soit, moi, j'ai pas d'avis plus que ça sur Andrew Tate qui me fait marrer, mais qui est. C'est un peu retombé, c'était plus fort il y a 2 ans.
Qui est bel homme aussi.
Oui, il est avec son frère aussi. Et puis, c'est surtout qu'il parle très mal des femmes, mais c'est quand même un peu rigolo. Et ça fait partie de toute cette mouvance un peu masculiniste.
Tu retrouves Papacito, tu retrouves tous ces gars-là qui disent mais arrêtez, foutez-nous la paix, quoi.
Voilà. Et donc, elle dit, est-ce que véritablement on doit accepter cette idée patriarcale que les hommes seraient les pourvoyeurs, que les femmes devraient rester à la maison, que c'est la religion, que les hommes protègent les femmes?
Mais alors, je voudrais arrêter quelque chose. Je veux bien, tout ça, ça me paraît excellente idée et tout, mais est-ce que c'est une meilleure société, c'est dans laquelle les femmes doivent se débrouiller, sont abandonnées, se retrouvent avec 3 enfants? Dans le meilleur des cas, et surtout comme on est en Allemagne aujourd'hui, où 50% des femmes n'auront jamais d'enfants. Parce qu'elles n'auront jamais d'enfants, parce qu'elles ont trop attendu. Donc, quelque part, il est possible que la situation actuelle ne soit pas agréable du tout, mais la situation alternative pour les femmes, c'est de se retrouver à 40 ans quand le téléphone ne sonne plus, avec 50 ans de solitude devant elles. Pas de famille, pas d'enfants, pas de futur. Et donc, ce qu'elle propose est une société qui est bien pire pour les femmes et pour la race humaine, parce que ça veut dire que la population italienne, par exemple, va baisser de moitié dans les 30 ans qui viennent. Il y aura moitié moins d'Italiens, il y aura moitié moins d'Allemands, il y aura moitié moins d'Espagnols. C'est ça tout à fait en accord avec les théories de Bill Gates et de Madame Gates, là, qu'il faut que la population diminue parce qu'on est trop nombreux.
Ce qui déjà va être le cas quand tu regardes.
Ça s'écroule partout, à cause de ces femmes. À cause de ces femmes, c'est le résultat direct de l'action de ces femmes qui ont convaincu les femmes qu'être une femme, c'était. Qu'être une femme. Les femmes, c'est quand même les seules qui peuvent donner la vie, quoi. Et personne n'a rien compris à la vie. Il n'y a pas un scientifique qui peut expliquer pourquoi la vie existe. Donc je trouve ça curieux que. On est une partie, la moitié de l'humanité qui peut donner la vie, et puis qu'on lui dise non, ça c'est pas bien du tout, il faut que vous alliez au bureau tous les jours pour faire de la comptabilité.
Oui, mais et si tu veux, ça me pose toujours la question suivante, c'est que tu te dis, bon, alors, ok, tu vas au bureau tous les jours pour gagner un salaire de misère, pas très intéressant parce qu'aujourd'hui les salaires sont relativement plafonnés.
Mais donc, c'est pas ça, c'est comme les femmes sont nues, le prix du salaire a baissé de façon extraordinaire, puisque d'un seul coup, il y avait que les hommes qui bossaient, donc puis les femmes sont arrivées, elles étaient très compétentes. Donc les salaires ont baissé, et donc maintenant le pauvre homme, si j'ose dire, il peut même plus nourrir sa famille, parce qu'il a une telle concurrence du travail féminin. Ça paraît idiot ce que je vais dire, mais c'est que le pouvoir d'achat commence à stagner à partir du moment où les femmes sont rentrées dans le boulot. Donc je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais c'est une réalité.
Et donc pour celles qui choisissent d'avoir des enfants quand même, c'est un peu la double peine, parce que tu dois les faire élever par...
T'es obligé d'aller travailler ?
Oui, et tu dois les faire élever du coup par...
Par une Philippine.
Par une Philippine.
Dans le meilleur des cas.
Dans le meilleur des cas. Et tu te tues à essayer de voir tes enfants le week-end. Où
et on te pique
crevé.
La moitié du pognon, au moins en impôts.
Mmh, bien sûr, bah, évidemment, monsieur. Et tu n'as aucune crèche, aucune...
Tu ne peux pas déduire de ce que tu gagnes, par exemple, de la personne que tu mets à la maison pour s'occuper de tes enfants.
Tu peux en déduire une partie, mais de toute façon, le delta est tellement... Enfin, tu as tellement peu de marge qu'en réalité, ça te fait une vie de misère avec des enfants. Tu ne sais pas trop comment tu les éduques. Mais bon, voilà, ça, c'est vraiment
et
le...
Et du coup, quelque part, les statistiques
le grand
du
mensonge
Danemark,
qu'on a fait la bourgeoisie.
Oui, mais aussi, tu vois, au Danemark, du coup... Le QI des enfants baisse. Bah, parce qu'ils sont plus élevés par leur mère, ils sont élevés par...
Par une nanny philippine qui est gentille, mais tu n'éduques pas un enfant qui n'est pas le tien de la même façon que le tien. Tu ne mets pas le même... voilà, c'est justement...
On retrouve l'ensemble de ces mensonges qu'on a servis aux femmes et qui se retrouvent quand même aujourd'hui dans une société qui est complètement démantelée, quoi.
Et alors après, on a en chapitre 5 un truc assez intéressant, c'est-à-dire je t'ai dit que parfois les liens logiques étaient un peu indigents, et là j'en tiens un, hein, c'est qu'elle dit dans le chapitre 5, la véritable solution, c'est l'accès au crédit. Alors déjà, premièrement, tout le monde n'a pas vocation à être un entrepreneur, donc même dans la population masculine, on va avoir un delta qui va être de quoi...
Il y en a un sur 10 qui ne veut pas être entrepreneur, 2 sur 10, mais puis si tout va bien...
Voilà, donc ça veut dire quoi, accès au crédit? C'est-à-dire tout le monde va devoir ouvrir un magasin ou tout le monde va devoir... Enfin, parce qu'entrepreneur, ça veut tout dire et rien dire. Un restaurant, enfin, quelque part, c'est de l'entreprise aussi.
Et surtout, donc... à ce moment-là, tu y passes ta vie, donc tu peux encore avoir moins d'enfants.
Bah oui, bien sûr. Et alors là, elle dit, vous comprenez, le grand problème, c'est que les femmes n'ont pas accès au crédit.
Mais chez nous, elles ont accès à tout ce qu'elles veulent.
Alors oui, mais alors c'est toujours pareil, elle prend des chiffres du Nigeria ou du Bangladesh. Mais je suis assez, relativement persuadée qu'au Nigeria et au Bangladesh, il y a assez peu de microcrédit aussi pour les hommes.
Au Bangladesh, c'est là où ils ont inventé aussi le microcrédit pour les femmes, tu sais, etc. Donc il y a eu des tentatives qui ont été faites pour amener du crédit aux femmes, mais c'est la vieille truc keynésienne qui me tue, c'est ils confondent l'argent et la création de valeur. C'est pas parce que tu imprimes de l'argent ou que tu files du crédit que tu vas créer de la valeur. S'il y a deux notions différentes. Et donc, si tu crées de l'argent sans créer de la valeur, tu as de l'inflation et tout le monde est plus pauvre. Donc, cette dame étant anglaise, et bien, pourtant, elle est à Oxford. D'habitude, à Oxford, ils sont pas très keynésiens parce que Keynes était de Cambridge. Donc, c'était, mais enfin, ça fait rien. Elle a avalé le verre, l'hameçon, la ligne, la canne à pêche, elle a tout avalé. Il n'y a pas une imbécilité qu'elle dise pas.
Il y aurait apparemment un delta de 9% d'accès au crédit entre les hommes et les femmes.
Chez nous ?
Alors, je ne sais jamais ces chiffres, elle. C'est...
Chez nous ? Ben, ça m'étonnerait. Enfin, j'en sais rien, mais peut-être parce que les femmes sont moins bêtes que les hommes, elles empruntent moins.
Alors, ensuite, on a des chapitres qui reviennent, évidemment, sur le changement climatique.
Parce que quand même,
tout ce qu'on fait, c'est mal. Alors, tout ce qu'on fait, c'est mal. Nous, les Européens, donc on a un chapitre 6 qui s'appelle le prix des vêtements, the cost of clothing. Mmh. Alors, c'est quand même très mal. Le prix que vous payez est la chaîne de valeur. Alors, l'ouvrier touche 0,04 pour l'ouvrier et pour que nous, on achète un t-shirt à 29 euros. Il faut donc faire du fair trade, de l'échange. Comment ça s'appelle en français ?
De l'échange. Non, on appelle ça pas équivalent, l'échange.
Équitable.
Équitable.
Voilà, il faut faire un échange équitable. Il faut qu'il y ait de la transparence et il faut mettre des quotas. Hein. En plus.
Ah, il faut mettre des quotas.
Mais oui. Eh ben oui, monsieur. Ah oui, parce qu'on a déjà vu en chapitre 2, je te rappelle, que l'État devait intervenir lourdement et qu'il fallait aller contre Milton Friedman qui disait qu'il ne fallait pas intervenir.
Ah oui,
donc l'État doit s'occuper de tout ça, de mettre des quotas. Sachant que 80% des ouvriers dans le textile sont des femmes, il y a 60 millions, ça me paraît peu, de femmes dans le monde. Enfin bref, toujours est-il. Donc à partir du moment où ces ouvriers exploités sont des femmes... Il y a aussi une exploitation de la femme au travers de l'industrie du vêtement.
Oui, mais si tu veux...
Donc
solution...
Shine exploite des femmes.
Oui, mais en même temps, si tu veux, elles ont... On ne peut pas avoir quelque chose de son contraire. Si elle veut que les femmes, si elle veut que les femmes travaillent, ben il faut aussi qu'elles soient payées.
Est-ce que tu le vois, le gouvernement mondial arriver ?
Ah oui, je le vois, mais m'expliquer qu'on va faire des quotas, mais je peux. Et alors ça, cette dame, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ce qu'on peut lui dire, c'est s'il y a des quotas, ça va être administré par des fonctionnaires, enfin des gens de l'État, pas des gens. Donc la première des choses que devront faire donc les fournisseurs de vêtements, c'est d'acheter les fonctionnaires.
Surtout dans ces pays-là.
Donc ça permettra à cette dame de vivre noblement, parce que comme elle sera la chef des quotas, c'est elle qui touchera toute la corruption. Plus y a de quotas dans un pays, plus il y a de corruption, parce que plus ça devient facile d'acheter... il est plus facile d'acheter le fonctionnaire que de faire de meilleurs vêtements, tu vois. Ce que je veux dire, ça coûte moins cher, quoi. Donc c'est d'une bêtise, ça dépasse l'entendement.
Mais c'est beaucoup de wishful thinking et beaucoup de liens logiques qui sont vraiment indigents.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été un succès mondial.
Ne m'en parle pas. J'ai lu dans la même semaine donc, ce livre, Le coût du sexisme, et par hasard du calendrier, puisque tu recevais Mathieu Bock-Côté la semaine dernière, le livre de Mathieu Bock-Côté. Et j'étais absolument sidérée de devoir dire, pardon, mais le delta de pensée entre les deux, c'est-à-dire que L'âge, qui a été un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires, hein, qui a été le best-seller de Science Book Prize, les top 2020 du Financial Times, c'est d'une indigence intellectuelle avec des raccourcis, mais de incroyable, et j'avais le petit bijou de Mathieu Bock-Côté à côté qui reprend l'histoire économique.
Et qui source tout.
Qui source tout.
Là, elle vous dit, d'après une étude de la Banque mondiale, mais bon, attendez, je voudrais avoir quelle étude de la Banque mondiale, il faudrait qu'il y ait la référence en bas, le numéro, quand ça a été publié. Elle vous dit, d'après une étude de la Banque mondiale.
Non, mais le pire, c'est qu'elle a ses propres chiffres. Aussi.
Mais c'est ça. Mais si elle donne ses chiffres, deviennent-ils. Ça me rappelle les études de ce crétin de Piketty, là, qui découvrait la rentabilité du capital au Moyen-Âge, qui avait des chiffres sur la rentabilité du capital au Moyen-Âge, alors que la comptabilité en partie double n'existait pas, donc personne ne peut calculer. Mais il avait des chiffres quand même, donc il les avait fait à la main, et il en tirait des conclusions.
Donc, Monsieur Zucman a été refusé de Harvard parce que c'est... Parce que c'était un peu trop inventif.
Un peu trop inventif. Il avait inventé des chiffres pour prouver ses trucs.
Alors, une autre inégalité aussi mondiale, c'est que...
Les hommes courent plus vite que les femmes.
Non, c'est le poids du care, le poids de l'intendance d'autrui, de s'occuper d'autrui...
Mais oui, les femmes adorent s'occuper des autres.
Retombe sur les femmes. Donc les femmes s'occupent forcément des enfants. Donc ce poids...
Et des vieux. Et je trouve ça de mieux en mieux, moi.
Et ça, c'est pour elle, c'est une taxe invisible. Le temps que passent les femmes à garder leurs enfants, c'est un impôt sur leur carrière. C'est ce qu'elle appelle the motherhood penalty.
Donc, il ne faut pas avoir d'enfant.
C'est un impôt sur la femme.
Je vais dire quelque chose parce que je connais un peu la Suède, comme je voulais vous souvent dire. La Suède, c'est le pays qui a été le plus loin dans toutes ces imbécilités. Hein. Ils ont fait tout pour que les enfants, les garçons, les filles aient les mêmes trucs, etc. Et donc c'est le pays qui a de loin le plus avancé. Donc c'est l'anti-Ghana, si j'ose dire. Tu vois, c'est vraiment la Suède. Et qu'est-ce qu'on trouve en Suède? C'est que 90% des docteurs, des infirmières, des professeurs sont des femmes. Et 90% des gars qui font des voitures, des camions et qui cherchent à se casser la gueule sont des hommes. Donc la société qui a été le plus dans les thèses, où les gens choisissent ce qu'ils veulent, les femmes choisissent toutes de s'occuper des gens. Et les mecs, ils choisissent tous de faire des voitures rouges et des camions de pompiers. Et c'est comme ça, donc si tu veux, ce qu'elle est en train d'essayer de dire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait la moitié des femmes qui soient des ingénieurs, et l'autre moitié qui soient, je sais pas, des docteurs. Bon, c'est possible. Mais la réalité, c'est qu'une fois qu'on laisse le choix aux femmes, elles choisissent toutes des professions très grande majorité, des professions d'aide aux gens, et les hommes, ils vont aller, je te dis, faire des camions rouges. Donc, on se rend compte que si tu laisses le choix aux gens, il y a l'autre qui ronfle là, si tu laisses le choix aux gens, les femmes vont naturellement vers les métiers de care et les hommes vont naturellement vers les métiers de faire des trucs. Les femmes s'intéressent aux gens et les hommes s'intéressent aux bidouilles, aux trucs qu'on peut fabriquer. Et donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'on va mettre des quotas pour forcer les hommes à aller s'occuper des gens. et les femmes faire des bidouilles.
Mais ça va rendre tout le monde malheureux si c'est pas ta nature.
C'est pas de la nature. Si c'est pas de la nature profonde, donc cette femme refuse la spécificité des hommes et des femmes, quoi.
Et foncièrement, peut-être la liberté de choix.
Mais c'est complètement la liberté de choix.
Parce que là, elle a l'air de dire que si on va pour aider autrui, on le ferait par une sorte de coercition sociale. Mais peut-être pas. Tu le fais aussi parce que tel est ton bon vouloir.
Parce que tel est ton bon vouloir. Et puis, si tu veux, s'il y a des tas de gens. C'est pas par hasard si dans l'histoire, les femmes ont toujours été plutôt en train de réparer les hommes.
Les conneries que vous faisiez.
Les conneries, ils ont réparé les hommes qui s'étaient cassés, que d'aller elles-mêmes se casser la gueule, quoi. Mais c'est extraordinaire, cette espèce de. Moi, ce qui me sidère dans la gauche, c'est vraiment cette façon de ne pas regarder la réalité. Ils disent, bon, cette réalité, je ne l'accepte pas, donc je vais forcer les femmes à aller faire des camions. Mais d'abord, qu'est-ce qui te donne le droit ? Quel droit ? Parce que tu as fait, t'es à Oxford ?
Et alors, on finit relativement... Alors, non, c'est pas fini, c'est l'avant-dernier chapitre. C'est le prix du climat, évidemment. Pourrait-on faire un livre de gauche digne de ce nom si on n'avait pas un chapitre sur le péril climatique ? Et donc, les femmes constituent 80% des réfugiés climatiques. Ne me demande pas.
Mais c'est pas vrai !
Elles gèrent...
C'est pas vrai ? Attends, j'arrête une seconde. Tous les types qui arrivent dans les bateaux, etc., des endroits où ça... où ça va pas, c'est des hommes. Le problème, c'est qu'il y a pas une... Les femmes, elles restent toutes à la maison, les mecs, ils sont tous... Si tu vas, les Afghans, on a plein de problèmes avec les Afghans aujourd'hui en France ou en Angleterre. Les Afghans, c'est à 100% des hommes.
Et alors, simplement 1% des fonds climatiques vont au projet genré. Et les pays pauvres, tu crois-le ou pas, manquent de statistiques de genre.
Ça veut dire quoi, les produits genrés?
Homme ou femme.
Oui, j'entends bien, mais de savoir... qu'est-ce qu'on cherche à savoir quand on fait des statistiques sur les genres ? On cherche à savoir si les hommes vont faire des enfants ?
Simplement, des statistiques de genre, c'est-à-dire quand tu fais des statistiques individualisées, homme ou femme. Voilà, donc ça c'est très mal, ils ne le font pas du tout assez. Il faut le savoir. Non mais voilà. Alors revenons sur véritablement quel est le prix du sexisme.
Ça, c'est la conclusion.
La conclusion. Prouver que l'égalité économique des femmes n'est pas simplement un rêve féministe. Il faut faire quoi ? Il faut, pour l'auteur, donc je rappelle Linda Scott, réformer les lois. Il faut une stricte égalité bancaire, une stricte égalité dans l'héritage et une stricte égalité dans le divorce.
Ah, mais attends,
je pense qu'on va porter ça à la religion musulmane.
Cette dame, elle va se faire tuer par les musulmans parce que c'est complètement... antinomique avec le Coran, ce qu'elle dit là.
C'est pas haram.
Non mais
c'est pas haram du tout.
C'est pas haram du tout.
Ce qu'elle dit.
C'est pas haram du tout.
Et je propose.
L'inégalité de l'homme et de la femme reçoit moins, c'est comme ça. Elle a pas le droit de divorcer, mais par contre, le mari peut la virer quand il veut. Elle peut pas avoir plusieurs maris, mais toi, tu peux avoir plusieurs femmes. Donc,
qu'il va falloir qu'elle aille expliquer elle-même à une partie de l'humanité qui...
Qu'elle prenne son bâton de pèlerin et qu'elle aille vivre, je sais pas, en Afghanistan. Oui, qu'elle prêche ça. Sa durée de vie va être assez brève. Hein.
Les catholiques ont aucun problème avec l'égalité bancaire ou l'égalité devant l'héritage dans nos systèmes juridiques, même de droit canonique.
L'égalité devant l'héritage avec ce que fait le gouvernement français, on l'aura déjà, on n'aura pas d'héritage. Donc, ils vont tout nous piquer. Mais enfin, ça, c'est autre chose, ça. Peut-être c'est une solution d'ailleurs.
Mais si nous
pique tout, il n'y a plus d'inégalité entre les hommes et les femmes.
Je suis persuadée qu'en droit canonique, si tu reviens au temps ancien, on devait avoir une relative, parce que les femmes n'étaient pas maltraitées, contrairement à ce qu'on dit au Moyen-Âge.
Il y avait l'égalité de... Ça dépendait des régions, si tu veux. Par exemple, si tu étais en Champagne...
En Aquitaine, c'était pas...
Si tu étais en Champagne, celle qui était plutôt orientée droit romain, c'était pas terrible pour les femmes. Mais celle qui était plutôt orientée droit coutumier, c'est-à-dire plutôt vers l'est de la France et tout, là, c'était pareil. Mais... C'était une époque où on n'avait pas encore connu les bienfaits de la centralisation révolutionnaire. Quoi.
Il effraie mon poisson. Toujours pareil. alors, aussi, il faudrait avoir accès au microcrédit. Il faut de la fintech genrée et des prêts mobiles. Voilà. Donc, surtout, il faut qu'il y ait un fléchage.
Alors, ce que je veux, un fléchage, c'est ça. Donc, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que... Encore une fois, je vais revenir à quelques réalités profondes, mais... Dans un pays, il y a un stock d'épargne. Ce stock d'épargne, c'est les petites fourmis qui épargnent, voilà. Puis tu as de l'autre côté des entrepreneurs qui sont des fous, qui ont une bonne chance de se casser la gueule. Il y en a 8 sur 10 qui vont se casser la gueule. Et au milieu, tu as un système financier, le cœur nucléaire du système, qui transforme cette épargne en investissement productif. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce que cette dame nous dit, et donc, la seule façon de le faire rationnel, c'est que la rentabilité du capital en moyenne du pôle des entrepreneurs là soit supérieure au coût à ce que tu vas payer les pauvres là, plus le coût du système de fonctionnement au milieu. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut que les entreprises gagnent en tout 10% de savings. Il y en a 2 qui seront pris par les gars qui mutualisent le risque au milieu, et puis 6 qui iront là-bas, ce qui permettra au système d'être en gain. Tu vois, c'est, donc il y a trois trucs qui s'entrebriquent. Très bien. Mais alors, si tu dis aux femmes maintenant, on va faire un système féminin où les femmes auront accès à du capital à 4% alors que les hommes auront accès à 8%, tu vas d'abord baisser terriblement la rentabilité de l'épargne qui est là. Et si tu baisses terriblement la rentabilité de l'épargne qui est là, la quantité d'épargne va baisser. Et si la quantité d'épargne baisse, le taux de croissance va s'écrouler. Donc, ce qu'elle dit est complètement imbécile. La seule façon, c'est que les femmes qui sont compétentes gagnent du 10% comme les entrepreneurs masculins, et puis tout le reste, c'est n'importe quoi.
Alors attends, parce qu'après on arrive à un truc, alors là, je n'ai pas compris. Elle dit qu'il faut des crèches universelles, subventionnées, qui coûteraient 7 dollars par jour. Mais je voudrais juste dire qu'au Bangladesh, 7 dollars par jour, c'est le PIB mondial.
C'est ce que tu gagnes à moins.
Donc je n'ai pas vraiment compris. Bon. Et grâce à ça, grâce au fait que les femmes pourront mettre les enfants dans des crèches universelles, voilà,
ça créerait... Universelle, ça veut dire quoi ?
Il faut qu'il y en ait partout, dans tous les pays, universelles, mondiales. Dans le monde, il faut qu'on ait des crèches subventionnées. Hein ? Bon.
Mais si j'ose dire des crèches subventionnées, universelles, ça pique au stock d'épargne, non ?
Do not ask me, je te dis...
C'est-à-dire que ça veut dire que quelque part la consommation, on va devoir payer ces gens.
Bah évidemment.
Et donc il va falloir augmenter les impôts, et en général sur qui on va augmenter les impôts. Et
comment tu vas dire au Ghana, les gars, faites des crèches universelles subventionnées. On revient au point, gouvernement mondial.
En plus, si j'ose dire au Ghana, j'ai connu quelques-uns de ces pays. Le Ghana, je connais pas, mais.
Enfin, c'est le Bangladesh ou...
Pour le Bangladesh ou l'Égypte, etc. En principe, la crèche, c'était la grand-mère. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'était la grand-mère qui s'occupait des morpions.
Non, et puis
moi, j'ai vu les Philippines, ce qui se passe, c'est que les jeunes Philippines, elles font des enfants, elles partent à l'étranger, et c'est la grand-mère qui élève les enfants, quoi. C'est toujours.
Et puis
donc, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est.
Et puis ça traîne dans la rue.
Mais c'était élevé, c'est loin, par le village.
Par le village. Tout le monde sait que tu as ton fils qui est en train de faire le con près de la rivière, des lieux de remontée, et ainsi
voilà,
de suite. Enfin, t'as quand
donc,
même un...
C'est une espèce de monde aseptisé, monstrueux. Et alors, les enfants, ils vont être élevés par des... Par quoi ? Par des gardiennes de crèche ?
Alors, il faut aussi des quotas. Évidemment.
Il y a toujours des quotas. Oui, ça, c'est quotas. Pour pouvoir être corrompu, il faut des quotas.
Dans
ça,
les
ça.
CA et en politique, avec minimum 40% de femmes. Voilà.
Et pourquoi ?
Mais parce que, monsieur, on vous le dit.
Alors, je vais redonner la réponse que donnait ce pauvre Charlie Kerr qui a été tué, parce qu'il se battait contre ça autant qu'il pouvait. Il disait, si on met des quotas, par exemple... Et si on met un quota pour les chirurgiens, il doit y avoir 40% de chirurgiens qui sont noirs. Mmh. Bon, ou qui sont femmes. Ça n'a pas d'importance. À ce moment-là, toi, tu es là, tu dois te faire opérer.
Et tu remets en cause ?
Ben, tu te dis, si ça ne vous fait rien, est-ce que je pourrais me faire opérer par un homme plutôt que par une femme ? C'est pas que je doute, mais en fait, elle est peut-être passée parce qu'elle faisait partie du quota et non pas parce qu'elle était compétente. Donc, si c'est pour me faire une opération du cœur, s'il ne faut se faire rien, je préférerais avoir un mec. Et quand il a dit ça, on lui a dit qu'il était raciste et sexiste. Mais il n'était pas raciste et sexiste, c'est-à-dire que la seule justification de métier extraordinairement difficile et dangereux, c'est d'avoir passé toutes les épreuves pour être capable de l'exercer. C'est pas parce que t'es née femme, ou que t'as la peau noire, ou que t'as la peau blanche, c'est complètement idiot. Donc ça amène à une série d'imbécilités, d'illogismes,
Et on finit donc sur un feu d'artifice. Il faut faire évidemment des campagnes anti-harcèlement et des statistiques genrées obligatoires. Voilà, c'est quand même. Voilà. Bon, et il faut aussi, alors ça je me souviens plus ce que c'est, mais peut-être tu vas savoir, l'éducation STEM, S-T-E-M pour filles. Je sais pas ce que c'est, mais il faut ça aussi.
Voilà. J'ai aucune idée de ce que c'est.
Voilà, c'est tout un truc.
J'ai aucune idée de ce que c'est, mais je crains le pire. Hein. C'est...
Et donc, en conclusion, si tu veux, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai été quand même un peu abasourdie de...
Que c'était dit il y a 40 ans, c'était idiot il y a 40 ans, mais avec 40 ans d'expérience qu'on continue à dire des imbécilités comme ça...
Et que ce soit vendu comme un best-seller...
Et que ce soit vendu...
En Angleterre et aux États-Unis.
C'est-à-dire que tous les gens qui ont acheté ce livre et qui l'ont aimé, on devrait leur interdire de voter. Quoi. Pourtant, je suis partisan du vote. Et
si tu veux, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'a flabbergasted, voilà, c'est véritablement l'indigence structurelle du propos qui relève d'un mauvais article de Cosmopolitan des années 80 dans le wishful thinking dont il faudrait Yaka Faucon et avec des sources qui, ma foi, sont pas très tenu et absolument pas relié à l'économie réelle. Et on te balance à la fois des choses de bien-pensance. Oui, évidemment. Est-ce qu'on pense qu'au Ghana, les petites filles devraient avoir accès à l'éducation? Bien évidemment. Est-ce que les femmes n'ont pas de protection périodique? Oui, aussi, c'est un scandale. Mais quel est le rapport? Et pourquoi tu me parles des règles tout à coup? Parce qu'encore une fois, on remet les entrailles des femmes au milieu où on te parle du fait que...
Voilà, c'est bon. Ce que tu as dit dès le départ, c'est qu'il y a des civilisations, des religions pour lesquelles ce qu'elle dit
est une tartufferie
et passible de la peine de mort.
Oui.
Parce qu'elle remet en cause ce qu'a dit le prophète. Donc, je sais pas, mais...
Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'il y a une libre disposition des peuples, enfin, faculté des peuples femmes. À disposer d'eux-mêmes, je ne vois pas, nous, en tant que colons, quelque part, pourquoi on irait dire aux gens au Ghana... que notre façon de faire, c'est d'avoir des crèches universelles et qu'il faut absolument qu'ils y mettent tous leurs enfants.
Et que leurs femmes soient à la libre disposition de leur corps, si tu vas dire ça à un musulman. Il va sauter partout.
Et avec quelle autorité? Toi, tu viens de l'extérieur des États-Unis, d'Angleterre, et tu vas aller au Ghana en disant, sous prétexte que je vous ai apporté des protections périodiques, maintenant je vais vous expliquer comment vous devez tenir vos foyers. Je sais pas, je me permets de douter. On a essayé, on n'a pas été bien reçus.
On a été bien reçus au départ, au moment où ça s'est imposé, puis après on s'est fait virer de partout. Donc il faut que ce soit fait.
Du reste, il y a tout un tas de pays où Bill Gates n'a plus le droit d'aller avec ses vaccins.
Absolument, Bill Gates, il est interdit d'aller en Inde, il est interdit d'aller en Afrique australe, il est interdit à peu près dans toute une série de pays parce qu'il a fait des faux vaccins pour rendre les filles stériles.
Voilà, enfin, il a vacciné des femmes en leur disant que c'était pour le typhus, le choléra et ainsi de suite, et en fait, il les a stérilisées plus ou moins.
Donc c'est un truc... Parce qu'il y avait trop de femmes.
Trop de femmes qui faisaient des enfants, trop de natalité.
Oui, mais si je peux me parler, celles qui font des enfants, c'est plutôt les femmes, non?
Oui.
Donc, si tu veux qu'il y ait moins d'enfants...
Tu sais qu'une journaliste de la BBC vient d'être virée cette semaine.
J'ai vu ça, je suis tellement content.
Non, je parle d'une autre qui a été virée parce qu'elle était en train de lire un prompteur et elle disait, le prompteur écrivait « People who have children ». Et donc elle reprend, elle dit « People have children ». Yeah, so women who have children.
On l'a virée. Ça prouve que... Mais alors, vous savez ce qui arrive à la BBC, je termine là-dessus, parce que ça fait partie de ces gens qui font des bêtises. Ils ont fait un truc et ils se sont fait choper. Ils ont pris un discours de Trump, dans lequel il disait « on va tous aller... »
Au Capitole,
etc. Pour honorer nos... Et puis, à la fin du discours, il disait qu'il fallait marcher, qu'il fallait se révolter, enfin, se battre, etc. Ils ont pris les deux parties du discours, ils les ont mis l'un derrière l'autre pour donner l'impression qu'ils donnaient l'ordre à ses troupes de marcher sur la Capitole de façon violente. Ça a été repris. Le directeur général de la BBC et la directrice et la patronne ont été virés tous les deux. Et il est question de supprimer maintenant la BBC et les avantages fiscaux qu'elle avait d'être payée par les impôts. parce que les gens en ont marre d'avoir ces radios avec les...
Il y avait eu déjà du mou dans les voiles il y a 2-3 ans, pour différentes raisons. Et du reste, je crois que certaines subventions avaient déjà été coupées.
Supprimées. Et là, maintenant, donc, on se rend bien compte que les gens qui pensent comme ça, qui sont de légion à la BBC, ont essayé d'organiser un coup d'État contre Trump. Et là, Trump est en train de réclamer, je crois, $1 milliard à la BBC.
Pourquoi
ils ont été virés tous les deux. Ça me fait un plaisir parce que c'est ce qui devrait arriver à ce bon Cohen, à tous ces gars-là.
Le Grand et ainsi de suite.
Madame Malherbe, etc., qui sont des gars qui nous font croire que ce qu'ils pensent est la réalité, l'objectivité. C'est pas vrai du tout, c'est de la saloperie ce qu'ils pensent et j'ai le droit de le dire, quoi, c'est tout.
Et moi, pour la même raison, comme ma fille m'avait offert ce livre et qu'elle avait l'air de trouver ça important, je me suis dit, bon, ben, je vais le lire pour pouvoir débunker, comme on dit aujourd'hui, toutes ces fadaises et vous donner des petits biscuits pour que, sur tous ces points, vous ayez maille à partir et que vous puissiez répondre. Et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi.
On a réussi ça. Et le truc important de vous souvenir, c'est que dans les sociétés libres, les nôtres, comme la Suède, quand on laisse le choix aux hommes et aux femmes, ils choisissent pas ce que cette dame voudrait leur imposer. Donc d'un côté, vous avez la liberté, de l'autre côté, vous avez les sachants qui veulent vous vacciner, etc. Ne croyez jamais les chassants. Croyez votre propre instinct. Parce que pour moi, c'est essentiel.
Voilà. Vive la liberté, Carraro.
Vive la liberté. Et surtout, si les femmes ont envie d'avoir des enfants, laissez-les avoir des enfants. Ben Dieu,
c'est la seule chose qui vaut le coup. Je vais vous dire, je vous le dis les yeux dans les yeux, j'ai travaillé, j'ai fait des études supérieures. Et la seule chose qui vraiment vaut le coup dans ma vie, c'est mes deux filles. Et j'aurais...
Et ton père.
Et mon père, bien évidemment.
Et ta mère, d'ailleurs.
Voilà, la famille, c'est la seule chose qui vaut le coup. Et c'est la famille, la structure de la famille. Et j'aurais vraiment, moi, je le pense, pour moi, mais ça n'est pas vrai pour tout le monde, mais je le conçois, mais pour moi, j'aurais eu l'impression de rater ma vie. Mes filles sont le plus grand bonheur de ma vie, vraiment, c'est tous les jours. Voilà. Et avec mon chien, bien évidemment.
Le chien, oui, lui, d'ailleurs, je vous signale qu'il a commencé à aller vers la porte parce qu'on arrive, c'est le moment, voilà. Où on sort.
Mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Posez vos questions en dessous si vous en avez.
On va essayer de faire une émission aussi dans le futur sur laquelle je vais travailler aussi avec Emmanuel. C'est sur la peur.
Oui.
Parce que j'en ai marre de cette société où les gens cherchent à vous faire peur tout le temps et vous expliquer que c'est pas bien, que c'est pas. Il faut débunker la peur. Ça m'énerve.
Voilà. Criez de joie. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.